Le texte de la parole de Dieu choisi pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, à la page 222 du Nouveau Testament, si vous utilisez la version qui est dans nos bancs. Éphésiens, chapitre 5. Notre texte sur lequel nous allons nous concentrer, c'est à partir du verset 25, mais je vais lire à partir du verset 22 que nous avons vu il y a déjà quelques semaines. 22 à 33. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Prions. Père éternel, que ta parole pénètre dans nos cœurs, qu'elle saisisse notre intelligence, nos émotions, notre volonté, que ton Esprit Saint fasse encore son œuvre en nous, une œuvre de lumière, une œuvre de transformation, de purification, de sanctification, une œuvre pour que nous puissions marcher à ta lumière. Non seulement comprendre tes desseins profonds pour le mariage, mais aussi en voir la beauté et en aspirer à vivre conformément à ta parole. Nous te prions, notre Dieu, pour que le mariage soit honoré parmi nous dans ton Église et que tous nous puissions nous encourager les uns les autres, encourager les couples mariés parmi nous à vivre à la lumière de ta parole. Que ton Esprit Saint nous guide et nous conduise aujourd'hui dans ta parole. Amen. Église bien-aimée du Seigneur, l'Esprit de Dieu parle à toute l'Église et l'Esprit parle à chacun et à chacune dans l'Église. Quand l'Esprit s'adresse à des personnes spécifiques dans l'Église, il ne le fait pas comme à des individus isolés, mais comme à des personnes en relation avec d'autres. Il parle aux épouses chrétiennes en relation avec leur mari. Il parle aux maris chrétiens en relation avec leurs épouses. Et il fait de même avec les enfants, avec les parents, les serviteurs, les maîtres. Nos vocations respectives se vivent à l'intérieur d'un réseau de relations complexes dans le corps du Christ. Dieu lui-même a créé ces relations. C'est lui qui a institué le mariage, la famille, le travail. Et en Jésus-Christ, dans son Église, l'Esprit de Dieu nous anime d'une force nouvelle pour que nous prenions soin de ces relations. Nous avons déjà vu ce que l'Esprit dit aux épouses. « Soyez remplis de l'Esprit afin de vous soumettre à votre mari, car il est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. » Certains pasteurs et certains maris accordent beaucoup d'importance à la soumission de la femme, mais soulignent très peu les responsabilités du mari. C'est très dommage, et c'est très dommageable, aussi bien pour la vie conjugale que pour la construction de l'Église. Nous ferions bien d'écouter ce que l'Esprit dit au mari. Ce sujet intéresse très certainement les épouses, j'en suis sûr, Elles vont sûrement écouter attentivement, mais s'il vous plaît, mes chères sœurs, demeurez humbles et douces auprès de votre mari quand vous lui rappellerez ses responsabilités. Servez-vous de ce que vous retiendrez, surtout pour vos prières pour votre mari. Il en a besoin. Ce que l'Esprit dit au mari intéresse également les jeunes filles, les femmes, les garçons, les hommes qui espèrent un jour se marier. Ça intéresse en fait tous les frères, toutes les sœurs dans la foi. Toute l'Église prie pour nos couples mariés et les encourage dans leur sainte vocation. C'est un intérêt commun pour nous tous. Et j'espère que ça intéressera aussi les maris, en tout premier lieu, en fait. Messieurs, ce n'est pas le temps de dormir ou de vous laisser distraire. Cette parole est pour vous. Écoutons donc ensemble ce que l'Esprit dit aux maris. En résumé, un mari chrétien rempli de l'Esprit aimera de tout cœur son épouse. Comment l'aimera-t-il? Premièrement, comme le Christ a aimé son Église. Deuxièmement, comme son propre corps. Donc, nous verrons ces deux éléments tour à tour. Premièrement, donc, le mari rempli de l'Esprit aimera sa femme comme le Christ a aimé son Église. La responsabilité première du mari se résume en un mot, aimer. Verset 25, Marie, aimez chacun votre femme. Dans le contexte des chapitres 4 et 5, l'apôtre Paul exhorte toute l'Église à vivre la vie nouvelle. Nous sommes appelés à nous dépouiller de la vieille nature pécheresse, nous rejeter le péché et à revêtir la nouvelle nature que le Seigneur Jésus produit en nous par son Esprit Saint. Et ensuite, l'apôtre Paul donne des applications pratiques aux épouses, aux maris, aux enfants, aux parents, aux serviteurs et aux maîtres. Il dit au verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit. » À quoi ressemble un mari rempli de l'Esprit? À un mari qui aime sa femme. Ça doit se voir, se manifester. Marie, aimez chacun votre femme. Jusque-là, vous allez me dire, ça ne semble pas trop difficile. Bien sûr que les maris aiment leur femme, voyons, c'est certain. C'est pour cette raison que nous l'avons mariée, n'est-ce pas? Nous avons des sentiments d'affection pour elle. Nous voulons l'entourer de notre amour, c'est certain. Mais l'amour commandé par le Seigneur est bien différent de ce que nous appelons amour aujourd'hui. Quand un jeune homme dit à une jeune femme « je t'aime », très souvent, ça veut dire qu'il a de forts sentiments pour elle et qu'il la veut pour lui. Les émotions font bien sûr partie du mariage. Mais quand Paul dit aux maris d'aimer leur femme, il leur demande un amour sacrificiel. Ça veut dire que ça va nous faire mal. Sacrificiel, ça veut dire qu'il y a un sacrifice. Ça veut dire que ça va coûter quelque chose. C'est le sens du mot « agapé ». L'amour « agapé » place les besoins de l'autre avant ses propres besoins. C'est simple, mais c'est profond. L'amour « agapé » s'engage à toujours chercher le bien de l'autre. C'est ce genre d'amour que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Les mariages fondés sur l'amour sacrificiel s'épanouiront à la gloire de Dieu. Bien sûr, avec des luttes, avec des combats, nous sommes encore pécheurs. Mais cet amour produira de bons fruits et des fruits à long terme. Le mari et la femme se soutiendront mutuellement. Ils chercheront le bien de l'autre. Et le mari donnera la direction. C'est lui le chef, donc c'est le chef aussi pour montrer et exprimer et vivre cet amour. Malheureusement, plusieurs mariages sont fondés sur les sentiments ou encore sur un désir d'épanouissement personnel. Si vous êtes marié ou si vous souhaitez vous marier pour votre satisfaction personnelle, eh bien, messieurs, vous êtes à côté de la plaque et vous courez après le désastre. Mais comment un pécheur peut-il aimer de cette manière, d'un amour agapé? C'est impossible par nos propres forces. Nous résistons à donner ce genre d'amour. C'est contre nature, on pourrait dire. Le mari doit absolument puiser à la source de l'amour. Où se trouve la source de l'amour agapé? En Jésus-Christ, bien sûr, en lui seulement. Verset 25, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le Seigneur Jésus aime son Église. Il l'aime depuis toute éternité. Il l'aimera jusqu'à la fin, pour toujours. Au jour des noces de l'agneau, ce sera la grande célébration de cet amour. Mais notez bien, ici, Paul utilise deux verbes qui indiquent une action passée. On peut traduire « comme le Christ aima l'Église et se livra lui-même pour elle ». Ça se réfère à un moment précis dans l'histoire. Comment Jésus nous a-t-il aimés? En s'abaissant, en s'humiliant, en s'oubliant pour son Église. Il était prêt à tout pour elle. Après ses longues journées de travail, parfois exténuantes et stressantes, eh bien, il était encore disposé, il avait encore le temps et l'énergie d'écouter, de parler, d'être sensible aux autres, de servir ceux qui étaient dans le besoin. Il a quitté sa gloire céleste pour subir l'humiliation. Il a accepté les moqueries et l'agonie par amour pour son Église. Jésus est le chef de son Église parce qu'il s'est sacrifié pour elle. Amour agapé. Le mari est le chef de sa femme dans le but de se sacrifier pour elle. Ça se corse un peu, n'est-ce pas? Une question pour les maris. Comment, dans mon mariage, est-ce que je peux refléter l'amour du Seigneur Jésus qu'il a pour son Église? Se donner en sacrifice ne veut pas dire que tous les jours, je vais accomplir un acte de bravoure exceptionnel pour ma femme, comme un pompier qui accourt percer une maison en feu pour sauver un enfant prisonnier des flammes. Ce n'est pas des grands actes exceptionnels de bravoure que nous sommes appelés à accomplir. Aucun journaliste ne viendra prendre une photo de vous qu'il publiera dans le journal régional avec le titre « Exploit de la semaine en Beauce ». Ce n'est pas ce genre d'action que nous recherchons. L'amour sacrificiel pour son épouse se vit au quotidien, dans les détails, dans les gestes simples de la journée. Votre femme le verra et l'appréciera. Vos enfants le verront, vos petits-enfants. Et toute l'Église en sera bénie et fortifiée. Comment fortifier l'Église? Eh bien, entre autres, en renforçant les maillons conjugaux. Ce sera une excellente façon de fortifier toute l'Église. Ces petits gestes au quotidien montreront que votre épouse est plus importante que vos amis ou que vos loisirs. Vous cultiverez la communication ensemble. Vous respecterez ses opinions à elle. Vous lui demanderez conseil. Vous serez sensible à ses sentiments. Vous apprécierez les gestes qu'elle fait pour vous et vous lui direz aussi votre appréciation. Vous prierez pour elle. Vous lirez la Bible avec elle. Vous donnerez la direction spirituelle à votre couple. Vous partagerez les tâches avec elle. Vous parlerez d'elle en bien devant les autres, sans jamais la critiquer en public ou mettre la faute sur elle. Marie, aimez-vous votre femme comme le Christ a aimé son Église? C'est une question qui nous garde dans l'humilité, n'est-ce pas? Bien sûr, l'amour de notre Sauveur est incomparable. Lui seul s'est offert en sacrifice pour expier nos péchés et nous donner la vie éternelle. Personne ne pourra vraiment lui ressembler à cet égard. Pourtant, l'Esprit-Saint travaille à nous transformer à son image, à sa ressemblance. Alors cherchons l'aide de l'Esprit pour devenir capable d'imiter Jésus, de commencer à l'imiter, tout au moins. Nous tomberons, nous aurons des échecs, nous manquerons d'amour, Nous demanderons pardon au Seigneur et à notre épouse. Nous nous relèverons par la grâce de Dieu. Nous continuerons d'apprendre à aimer notre épouse comme le Christ a aimé son Église. Comment Jésus a-t-il aimé son Église? Est-ce qu'il a dit, « Je vais commencer à t'aimer » ou « Je vais continuer à t'aimer quand tu seras bonne et gentille pour moi » Non, pas du tout. Un mari ne peut pas dire à sa femme, « Chérie, je vais t'aimer si tu t'occupes de moi, si tu prends bien soin de moi, si tu combles mes besoins, ou encore si tu te soumets à ma volonté. » Ça ne marche pas comme ça. Un mari doit être fermement engagé, c'est un engagement de volonté pour la vie, à aimer sa femme d'un amour qui se donne. Un amour qui se donne. Ce ne sera pas pénible, certainement, pour une femme de se soumettre à un tel mari, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a-t-il aimé son Église? Parce qu'elle était belle et attrayante? Parce qu'elle était bonne et gentille pour lui? Non. Quand Jésus est tombé en amour, si on peut dire, son Église était sale, impure, repoussante. Pourquoi l'a-t-il aimé? Par pure grâce. Parce qu'il l'a bien voulu. Et aussi pour la rendre belle, parce qu'il avait un but pour elle. Versets 26 et 27. « Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Le Christ n'a pas cherché ce qui était bon pour lui. Il a cherché ce qui était bon pour elle, son Église. Il est mort sur la croix dans le but de rendre son Église belle et rayonnante. Et depuis ce temps, et depuis qu'il est monté au ciel, il est dévoué tout entier à son Église. Il travaille chaque jour sans relâche à la purifier de ses péchés, à la sanctifier, à la faire progresser pour qu'un jour, elle paraisse devant lui glorieuse et sans défaut. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le mari est appelé à faire la même chose pour sa femme. Bien entendu que non. Ce n'est pas nous, les maris, qui sommes capables de changer notre épouse. Et ce n'est pas vous non plus, les femmes, qui êtes capables de changer votre mari. Il faut bien le préciser. Oui, la femme est un grand facteur de civilisation, j'en conviens, mais elle n'a pas ce pouvoir transformateur auprès de son mari. Pas plus que le mari n'a ce pouvoir. Ce pouvoir appartient uniquement à Jésus-Christ, par son Esprit Saint Tout-Puissant. Et justement, parce que le Seigneur Jésus travaille chaque jour à purifier et à transformer son Église, il y a de l'espoir pour nous, pour chacun, chacune d'entre nous. Il y a de l'espoir à devenir un meilleur mari. Il y a de l'espoir à devenir une meilleure épouse. Il y a de l'espoir à devenir un meilleur chrétien, une meilleure chrétienne, que nous soyons grands ou petits, parce que Jésus est actif chaque jour à travailler comme Paul le décrit ici, pour son Église. Votre femme a peut-être des défauts de caractère, peut-être elle a des taches ou des rides. Même si ces défauts vous dérangent, soyez humble et patient envers elle. Ne tombez pas dans la critique négative. Parlez-lui avec douceur de ce qui vous dérange, pas parce que ça vous dérange, mais pour qu'elle progresse dans sa vie chrétienne. Ce n'est pas la même chose. Priez pour que l'œuvre de l'Esprit-Saint continue de grandir dans sa vie. Encouragez-la à utiliser ses talents au maximum, à développer tout ce que le Seigneur lui a accordé. Voyez-vous, l'amour vise un but. Le Seigneur Jésus a un but pour son Église. Il a aimé son Église, puis il a un but pour elle, la rendre pure et parfaite devant Dieu. C'est lui qui le fait, ce n'est pas nous. Mais justement, parce qu'il le fait, le mari doit aussi avoir un but pour sa femme et pour son mariage. Le but de contribuer au développement spirituel de son épouse. Le but de l'aider à grandir dans sa marche avec Dieu. L'œuvre que Jésus accomplit en elle, eh bien que nous soyons associés à ce but également. Vous, les maris, vous avez la responsabilité de guider votre couple spirituellement, avec la parole de Dieu et dans la prière. Le faites-vous, mes frères, faites-le. Et si vous n'avez pas encore commencé, pilez sur votre orgueil et commencez à le faire avec la force de Dieu, avec la grâce de Dieu, en demandant à Dieu sa sagesse. Deuxièmement, comment aimer sa femme? Le mari rempli de l'esprit aimera sa femme comme son propre corps. Versets 28 à 30. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. L'homme et la femme mariés n'ont pas seulement des buts communs ou des intérêts communs, ils sont devenus un. Verset 31 cite Genèse 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à son Église, puisque Christ et son Église forment un corps. Leur union intime de l'homme et de la femme reflète l'union du Christ avec son Église. C'est quelque chose de mystérieux. Notez bien, Paul ne dit pas « Les maris doivent aimer leur femme comme si elle était leur corps. Hein, » Hypothétiquement, c'est comme si elle était notre corps. Non. Paul dit « Les maris doivent aimer leur femme comme étant leur propre corps. » Ce n'est pas la même chose. Jésus n'aime pas l'Église comme si l'Église était son corps. Jésus aime l'Église parce que l'Église est véritablement devenue son corps, le corps du Christ. Pourquoi Jésus prend-il soin de nous? Parce que nous sommes membres de son corps, dit Paul au verset 30. Nous sommes membres de son corps. C'est un fait, c'est une réalité profonde et mystérieuse. Alors, quand nous sommes remplis de l'Esprit, eh bien, nous aimerons notre épouse parce que Dieu nous a unis à elle pour la vie. Nous formons un seul corps, une seule chair, une seule entité. Nous ne disons plus seulement « moi » et « toi », nous disons « nous ». Tout ce que je fais implique nécessairement ma femme. Tout ce que le mari fait implique sa femme. Mon travail, mes intérêts, mes loisirs, mes ambitions ont forcément des répercussions sur mon épouse. Pas deux départements séparés l'un de l'autre. Quand l'union éclate, la déchirure est extrêmement profonde et douloureuse et ça montre que Dieu nous unit ensemble, Dieu nous a unis ensemble. Et s'il y a un éclatement, c'est une déchirure d'une extrême douleur. Que fait-on avec son corps? Que fait-on avec sa chair? Paul dit au verset 29, on la nourrit et on en prend soin. Nourrir signifie donner tout ce qui est nécessaire au bien-être de son épouse, pourvoir à son développement émotif, physique, spirituel. Prendre soin signifie chérir tendrement. Littéralement, le mot signifie réchauffer, envelopper dans une couverture avec une bonne doudou. Une bonne idée pour l'hiver, n'est-ce pas? Les gars, vous avez compris? Notre mission consiste à entourer tendrement d'affection notre épouse. Voilà notre mission. Avez-vous remarqué, quand l'Esprit de Dieu s'adresse aux épouses, il dit peu de mots. Versets 22 à 24 et fin du verset 33. Quand l'Esprit de Dieu s'adresse au mari, il en dit plus long. Versets 25 à 32. Les maris auraient-ils besoin de plus d'explications? Je ne sais pas. En tout cas, ils doivent redoubler de concentration. Alors, courage, il en reste encore. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à dire aux maris. Et oui, Paul ajoute des explications pour nous aider à comprendre ce qu'il est en train de dire. Il donne l'exemple de ce qu'une personne fait naturellement avec son corps. Verset 29, « Jamais personne n'a haï sa propre chair. » Que faisons-nous avec notre corps? nous en prenons soin. Je sais, c'est vrai, il y a des gens qui maltraitent leur corps. Tatouages, perçages, drogue, sport extrême, et j'en passe. Mais normalement, nous prenons soin de notre corps. Nous prenons une douche le matin, nous mangeons la nourriture saine, nous prenons du repos quand c'est nécessaire, nous portons des vêtements convenables. De même, le mari rempli de l'esprit prendra soin de son épouse. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue son propre corps. Les deux sont un. Et la raison est encore plus profonde au verset 29. Il la nourrit et la chérit comme le Christ le fait pour l'Église. Encore cette comparaison avec Jésus et son Église. Jésus nourrit et chérit son Église. De quelle façon? En nous protégeant, en nous guidant par sa parole, en priant pour nous, en pleurant avec nous, en nous encourageant dans nos faiblesses, en nous disant « Je te pardonne ». Le Seigneur dirige toutes choses dans le ciel et sur la terre dans un but précis qui est de nourrir et de chérir son Église. Il y consacre toute son attention jusqu'au jour où nous serons rendus parfaits à son image. Et dès aujourd'hui, il nous donne son esprit pour nous rendre capables d'accomplir notre vocation, vocation d'épouse, vocation de mari. Vous, les maris, êtes-vous attentifs aux besoins de votre épouse, à ses besoins physiques, émotifs, spirituels? Quels sont les besoins de mon épouse? Comment puis-je contribuer à son développement? Est-ce que je l'entoure de toute mon affection? Comment l'aider à mieux servir Dieu? Qu'elle puisse mieux servir Dieu et qu'ensemble nous puissions mieux servir Dieu. Demandons à Dieu son pardon. Nous en avons besoin. Demandons-lui sa force, sa direction, sa sagesse. Quelle belle institution que le mariage, quelle belle invention. Mais aussi, quel grand défi. Refléter l'union de Jésus-Christ avec son Église. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Certainement pas par nos propres forces, c'est impossible. Mais oui, c'est possible par sa grâce, par la force de son esprit. Les jeunes garçons, les jeunes hommes doivent aussi se préparer à relever un jour ce défi. Nous, les maris, serons-nous les modèles pour eux? Que Dieu nous remplisse tous et toutes de son esprit pour nous faire grandir dans la vie nouvelle et dans l'exercice de nos vocations respectives. Que l'amour de Jésus-Christ brille dans nos vies, dans nos foyers, dans notre Église, pour sa seule gloire. Amen.